France Inter. .fr.
Bonjour Alain Philippe.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, les ravages de la grippe évalués par l'Institut de veille sanitaire qui a compté 8500 décès supplémentaires en France par rapport à la moyenne des 8 hivers précédents. À France Télévisions, le gouvernement voudrait qu'on fasse plus et mieux avec moins d'argent. La ministre Fleur Pellerin nous donnera-t-elle le mode d'emploi? Elle est l'invitée de France Inter à 8h20. Vos questions 01 45 24 7000. Les autres titres, Hélène.
L'interview exclusive de la conseillère politique de Bachar al-Assad en Syrie. Nous sommes à Damas. Elle revient sur la venue des 4 parlementaires français la semaine dernière. Inégalité homme-femme, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, la dernière étude de l'INSEE. Et puis de nouvelles installations culturelles démontées, trop engagées, trop polémiques. Quand les centres d'art s'auto-censurent, l'esprit du 11 janvier s'essouffle.
Le plan Vigipirate prolongé, les sociétés de sécurité débordées, le zoom de Rosalie Lafarge dans un quart d'heure. Areva aux abois, à qui la faute? Réponse de Dominique Seux. Et puis chez Rebecca Manzoni, Bowie encore. Bowie ce matin en Ziggy Stardust.
France Inter. Les autorités sanitaires l'avaient déjà dit, la grippe est très forte cette année. L'Institut de veille sanitaire confirme, c'est même la cause principale des 8500 décès supplémentaires de cet hiver. Une hausse de 19% par rapport aux années précédentes que nous décrypte Daniel Messager.
Cette hausse de 19% concerne la mortalité hivernale, toutes causes confondues, mais bien évidemment la grippe apparaît comme un élément majeur. Une épidémie de grippe qui n'est pas qualifiée d'exceptionnelle, c'est néanmoins la plus importante depuis 5 ans. Elle a ceci de particulier qu'elle provoque de forts symptômes, fièvre et fatigue qui se prolongent. De plus, l'efficacité du vaccin, qui n'est jamais totale, en général autour de 50%, est bien moindre cette année puisqu'il ne protège pas contre la souche A H3N2 qui circule majoritairement cet hiver et qui a muté depuis la mise au point du vaccin il y a plusieurs mois. Ce sont toutes ces raisons qui provoquent une surmortalité à cause des complications dues à la grippe, surinfection respiratoire, aggravation cardiaque ou rénale, et qui touchent essentiellement des personnes fragiles et âgées de plus de 65 ans. On n'est pas dans l'épidémie de H1N1 de 2009 qui avait entraîné des morts chez de jeunes adultes. Les régions les plus touchées demeurent le centre, les Pays de Loire, la Bretagne et Rhône-Alpes. Aujourd'hui, même si l'épidémie décline, 66 établissements de santé, hôpitaux et cliniques restent encore sous tension.
Mais l'épidémie pourrait encore durer une vingtaine de jours. Qu'on soit touché par la maladie ou par le handicap, il est très difficile d'obtenir un crédit. Les banques se protègent, trop pour les associations. Un Français sur 4 aurait rencontré des difficultés pour contracter un crédit selon le dernier baromètre du collectif interassociatif sur la santé. Totalement transparent, le groupe pétrolier Total s'y était engagé. Il a publié hier la liste de toutes ses filiales, 903 tout de même. Total promet d'en fermer 9 dans les paradis fiscaux d'ici à 2016. Sur les 19 qui fonctionnent encore aujourd'hui, c'est bien mais pas suffisant pour Manon Aubry de l'ONG Oxfam.
Ça va dans le bon sens, mais pour nous ça reste largement insuffisant dans la mesure où nous savons qu'ils ont des filiales dans les paradis fiscaux, mais on ne sait pas encore ce qu'ils font. Et donc c'est pour ça qu'à Oxfam, ce qu'on demande, c'est non seulement la publication de la liste des filiales, mais également l'ensemble des informations sur leurs activités dans ces filiales, notamment leur chiffre d'affaires, leurs profits, leurs impôts acquittés, qui sera véritablement la première vraie étape de lutte contre l'évasion fiscale.
Total a déjà fermé certaines filiales et s'engage à en fermer davantage. Ça, c'est positif?
C'est bien sûr positif et on encourage Total à en fermer davantage encore, mais non seulement fermer toutes les filiales qu'ils ont dans les paradis fiscaux, mais aussi être plus clair et transparent sur leurs montages fiscaux pour que véritablement Total paye ses infos là où elle a des activités réelles, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels elle extrait du pétrole et dans les pays dans lesquels elle vend ce pétrole-là et pas dans des pays intermédiaires, là où le régime fiscal leur est plus favorable.
Manon Aubry, micro de Bruce de Galzin. Après les annonces des très mauvais résultats d'Areva hier, François Hollande prône un rapprochement du géant de l'atome avec EDF. La filière du nucléaire doit être refondée, a dit le chef de l'État hier soir à Madrid. Ça devient banal malgré les interdictions. Tous ces drones repérés dans le ciel, hier soir encore au-dessus de Paris, de Joinville-le-Pont aussi, le gouvernement fourbit ses armes. Des radars, des brouilleurs et même l'utilisation de jets d'eau devraient être testés d'ici à la fin du mois de mars.
Il est 7h05 sur Inter. La France active sa diplomatie sur la Syrie.
Le chef de l'opposition syrienne syrienne en exil est reçue à l'Élysée aujourd'hui. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, aussi de passage à Paris. Que faire pour stopper 4 ans de guerre? Fallait-il aller jusqu'à rencontrer le dirigeant syrien Bachar al-Assad, ce qu'ont fait 4 parlementaires français la semaine dernière? Ça a fait polémique ce matin et seulement pour France Inter, la conseillère politique de Bachar al-Assad revient sur cette affaire. Christian Chesneau a pu la rencontrer à Damas.
Bouzena Chaban, c'est l'éminence grise de Bachar al-Assad, sa conseillère politique et médiatique, une des rares personnalités à pouvoir parler en son nom. Revenant sur la visite des 4 parlementaires français à Damas, Bouzena Chaban assure que d'autres délégations européennes sont attendues prochainement en Syrie.
Le message du président Bachar a été de leur dire « Nous aimerions entrer en communication avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec l'Europe. Nous pensons que les Occidentaux se sont trompés quand ils ont fermé leurs ambassades. » Quand ils ont imposé sur la Syrie de façon unilatérale des mesures contraignantes, c'est la population qui en paie le prix.
Face au péril djihadiste, Bouzena Chaban rappelle que la Syrie a mis en garde depuis longtemps les Européens qui se réveillent bien tard.
Pour moi, c'est inacceptable que les pays occidentaux, les Européens, n'imposent pas les mesures pour vraiment les empêcher de venir ici.
Mais peut-on imaginer que les services secrets français reviennent pour établir une coopération?
Les services français feraient mieux de les empêcher de venir ici. Ils devraient d'abord travailler dans leur propre pays.
Le dialogue de sourds continue avec Paris, même si pour le pouvoir syrien, la visite des parlementaires français est perçue comme un premier pas positif. À Damas, Gilles Gallinaro, Christian Chesneau, France Inter.
Et sur le terrain, des rebelles dont certains membres d'Al-Qaïda ont lancé hier une violente attaque contre le QG des services de renseignement de l'armée de l'air à Alep. Au moins 34 personnes sont mortes. Les islamistes en force encore plus avec la dissolution du groupe Azem défait par le front Al-Nosra. Retrouvez l'entretien de Christian Chesneau avec la conseillère politique de Bachar al-Assad en vidéo sur notre site franceinter.fr. L'ambassadeur américain en Corée du Sud agressé au couteau de cuisine en pleine réunion. L'assaillant serait proche des milieux nationalistes déjà condamnés pour avoir agressé l'ambassadeur du Japon à Séoul il y a 5 ans. Les jours de l'ambassadeur ne sont pas en danger. Et aux États-Unis, aucune charge ne sera retenue contre Darren Wilson, le policier blanc qui a tué un jeune noir désarmé l'été dernier à Ferguson. Décision du département de la justice hier, qui estime tout de même que de profondes réformes sont nécessaires dans la police. C'est un terrain oublié de l'histoire contemporaine et il nous ramène en France, le camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Atlantiques. 50 000 personnes y ont été internées entre 1939 et 1964. Républicains espagnols, tziganes, juifs, puis prisonniers allemands, combattants du FLN et enfin famille de harkis. Qui s'en souvient aujourd'hui? Le projet a été pris à bras-le-corps. L'endroit deviendra un lieu de mémoire à l'automne prochain, le mémorial tout près d'être fini, Béatrice Duguay.
Une plaine de 612 hectares, aride, balayée par les vents, inhospitalière en un mot. Agnès Sajaloli, la directrice du mémorial, a beau venir là tous les jours, elle reste impressionnée par l'endroit.
La caractéristique, quand on arrive, c'est de voir ces baraques, certaines debout, d'autres effondrées. Tout de suite, on est pris en se disant, mais qu'est-ce que ça pouvait être de vivre dans ces conditions-là?
Une vie contrainte, terrible, qui se racontera donc dans un vaste bâtiment de béton, à moitié enterré, sans fenêtre latérale, mais qui ouvre sur le ciel. Un lieu d'histoire pour des histoire, revendique Denis Péchanski, l'historien président du conseil scientifique du mémorial.
La dimension majeure de l'opération, c'est une dimension humaniste. C'est ça qui me touche le plus, c'est que tous vont découvrir l'histoire des autres. On porte quelque chose qui dépasse le simple message historique. C'est un message citoyen.
Le mémorial suscite aussi des témoignages inédits en ce moment qu'Agnès Sajaloli recueille toutes les semaines.
On a eu il y a 3 mois une association de tirailleurs guinéens qui sont venus à 20 avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants parce qu'ils ont habité dans le camp sur la dernière période. Ils s'appellent les cousins. Ils sont aujourd'hui 300 en France, des anciens de Rivesaltes. Et c'est tous les jours comme ça.
Il y a aussi ces familles de harkis qui ont habité là ou encore cette pilote allemande de Harley Davidson venue sur les traces d'un père prisonnier décédé là il y a 70 ans.
Le mémorial du camp de Rivesaltes est dessiné par Rudy Ricciotti, l'architecte du MUCEM à Marseille. Les universités vont craquer. Il va leur manquer 200 millions d'euros selon l'UNEF, le syndicat étudiant. Les syndicats lancent une journée de mobilisation aujourd'hui. On va y revenir dans le journal de 7h30. Pour l'emploi des jeunes, le gouvernement va débloquer une enveloppe de 170 millions d'euros, accélérer le calendrier, le nombre de contrats aidés d'ici à l'été. C'est une information du journal Les Échos.
Et pour l'emploi des femmes, quelles sont leurs chances de réussite aujourd'hui par rapport aux hommes? Hier, on parlait des salaires des cadres.
Et une étude beaucoup plus large de l'INSEE, emploi, éducation, conditions de vie, il n'y a pas que du mieux, Léo Técher.
Les femmes sont de plus en plus diplômées, de moins en moins au foyer ou encore de moins en moins au chômage. Des indicateurs INSEE qui tentent à démontrer que les inégalités hommes-femmes s'effacent. Pas d'accord, Rachel Silvera, économiste et spécialiste des inégalités entre les sexes.
J'aimais bien cette poutine. Deux pas en avant, trois pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a de vraies avancées. Mais chaque avancée masque des obstacles persistants.
Par exemple, concernant la part de femmes diplômées du supérieur, elles étaient 38% en 2011 contre 24% en 1999. Mais ces chiffres n'ont aucune répercussion.
Ces diplômes ne se transforment pas dans l'emploi.
En fait, les femmes sont moins au chômage aujourd'hui, mais elles le sont toujours plus que les hommes alors qu'elles sont plus diplômées. Et là encore, en termes d'égalité des diplômes, Rachel Silvera critique.
Il y a encore qu'un tiers de femmes dans les grandes écoles. Donc du coup, elles sont diplômées, mais plutôt généralistes, qui permettent moins d'accès aux emplois préqualifiés.
Et pour s'en rendre compte, une statistique donnée par l'INSEE, en France, il n'y a qu'un cadre dirigeant sur cinq qui est une femme.
L'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers a fait un grand pas en avant hier, 32 ans après les faits, la mort de 6 personnes en plein Paris. Le juge Marc Trévidic, qui mène l'enquête, vient de délivrer des mandats d'arrêt internationaux contre 3 hommes, 3 Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, en Jordanie et en Norvège. La menace terroriste au plus haut depuis janvier, le plan Vigipirate a été prolongé pour 3 mois encore. Et l'esprit du 11 janvier, où est-il? Où est-il quand les centres d'art eux-mêmes se censurent et mettent sous le tapis des œuvres engagées, dérangeantes? On a eu plusieurs exemples ces dernières semaines d'installations démontées avant même d'être présentées au public, par crainte de réactions trop vives, par crainte pour la sécurité. Ça a été le cas à Clichy dans les Hauts-de-Seine, excite la cirée de talons hauts sur des tapis de prière. Et c'est aussi le cas sur la Côte d'Azur, à la Villa Tamaris de la Seine-sur-Mer, avec l'artiste marocain Mounir Fatmi, Camille André.
L'œuvre de Mounir Fatmi, c'est un homme qui dort pendant 6 heures. Mais c'est aussi un hommage à Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques frappés d'une fatwa de mort. Une œuvre qui pourrait choquer certains musulmans et être sujette à manipulation, selon la Villa Tamaris. Donc pas d'exposition. Ce genre de censure préventive se généralise, selon Mounir Fatmi.
Les musées ne veulent plus qu'une œuvre pose problème. On va décider maintenant dans les coulisses ce qui passe, ce qui ne passe pas. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde libre, mais finalement, quand on teste cette liberté-là, on se rend compte du contraire.
Du côté du centre d'art, le directeur Robert Bonacorsi se défend d'une telle intention. Dans le contexte des attentats, il était légitime de s'interroger sur la présence de cette œuvre, selon lui.
Ce n'est pas une forme de censure, c'est une forme de travail qui se fait régulièrement dans le cadre d'une exposition. On se réinterroge sur la pertinence ou la non-pertinence d'une œuvre. Et là, ça se trouvait être dans un contexte extrêmement problématique, où on a des consignes de sécurité. Et moi, je craignais déjà d'être sous protection policière le soir du vernissage. Quoi.
L'autre absent du vernissage, ce sera l'artiste Claude Lévesque. Il était programmé dans l'expo C'est la nuit et a décidé de se retirer en soutien à Mounir Fatmi.
Exposition donc organisée en juin prochain par la Villa Tamaris dans le Var. Exposition universelle aux Jeux Olympiques. Les paris sont ouverts à l'organisation de quelle grande manifestation? La capitale sera-t-elle candidate? Les rapports s'enchaînent. JO en 2024, Expo France 2025, ça c'est pour ce matin, présentation officielle du projet. Et le match des candidatures est bien lancé. Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait commencé par donner sa préférence à l'exposition universelle. Elle est moins catégorique aujourd'hui. 2-0, 2 buts parisiens face à Monaco et une qualification en demi-finale de la Coupe de France pour le PSG, but de Luiz et Cavani hier soir. Ce soir, les deux derniers quarts de finale, Brest, Auxerre et puis les deux Bretons aux deux extrême, Concarneau, les amateurs face à Guingamp, les tenants du titre. Et voici qui nous fait prendre un bon coup de vieux. 400 000 ans, ce n'est pas rien. La découverte d'une partie de mâchoire avec 5 dents en Éthiopie en 2013, datée depuis peu. Il semble qu'elle remonte à plus de 2 800 000 ans, le plus ancien fossile du genre Homo jamais trouvé.
On y reviendra en détail dans le journal de 8 heures. Merci, c'était Hélène Philippe pour le journal sur Inter.